blocus imposé par Israël continue d'asphyxier l'économie de Gaza. Ça, ça se traduit par un taux de chômage extrêmement élevé, qui reste à peu près 45% de la population, avec 60% des jeunes qui sont sans emploi. Et donc le cercle vicieux chômage, pauvreté et dépendance de l'aide humanitaire pour la survie de la population n'a pas été brisé par les ajustements qui ont été apportés au blocus. Donc ce rapport souligne bien que les ajustements qui ont été apportés au blocus ne sont pas en aucun cas suffisants pour permettre à l'économie de Gaza de respirer et à la population de Gaza de retrouver une vie normale.
Pourquoi est-ce que c'est si évident que le taux de chômage, qui est donc énorme, soit clairement, directement imputable au blocus israélien ?
Parce qu'il faut savoir que pour que l'économie de Gaza fonctionne bien, il faut qu'il y ait suffisamment d'exportations et d'importations. Il y a 10 ans, quand l'économie fonctionnait bien, l'UNRWA donnait une aide humanitaire à 10% de la population. Aujourd'hui, à cause du blocus, c'est 70% de la population qui est dépendante de l'aide humanitaire. S'il fallait 100 camions, par exemple, pour approvisionner la bande de Gaza par jour en importation, aujourd'hui, il n'y a que 40-40. Donc, il y a 40% des importations requises pour que l'économie fonctionne qui sont autorisées à rentrer. Et en ce qui concerne les exportations, c'est à peu près 5%. Donc, il n'y a pas de flux économique suffisant pour que l'économie puisse repartir, d'une part. D'autre part, pour tout ce qui est agriculture, il y a à peu près 17% du territoire de la bande de Gaza qui est inaccessible aux agriculteurs. Donc, il y a une perte importante de revenus. Et il y a à peu près 85% des zones de pêche qui sont aussi inaccessibles aux pêcheurs. Tout ça fait qu'une grande partie de la population est au chômage, tout simplement.
Et on imagine aussi qu'avec le blocus, il doit y avoir un problème pour des employés du secteur privé, pour des entreprises qui ont des difficultés à investir à Gaza. Est-ce que c'est un problème qui...
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait un secteur privé qui fonctionnait bien avant l'imposition du blocus. Il y avait des industries, et notamment les industries qui exportaient. Et aujourd'hui, des 3500 usines qui fonctionnaient à Gaza, il n'en reste plus que quelques centaines, et qui ne fonctionnent qu'à un pourcentage limité de leur capacité. Donc c'est l'asphyxiation de l'économie qui se traduit par un taux de chômage très élevé.
Et est-ce que, par rapport justement à ce taux de chômage extrêmement élevé, est-ce que ce n'est pas aussi la faute du Hamas ? Est-ce que le Hamas a une politique de l'emploi depuis 2007 qui fonctionne ?
Ce qu'on peut dire, c'est que cette politique de blocus, elle est d'abord très néfaste et nuisible au secteur privé. Le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement en fonction aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire le gouvernement du Hamas, lui est arrivé à recruter plus de gens. Donc finalement, cette politique, c'est un paradoxe, hein, cette politique qui est censée amoindrir, affaiblir le Hamas, finalement a un impact négatif sur la population et aussi sur les Nations Unies, puisque nous ne sommes pas en mesure de reconstruire Gaza, de reconstruire les écoles et les maisons qui doivent l'être, parce qu'on n'est pas en mesure, on n'a pas le droit d'utiliser les matériaux de contrebande. Il faut savoir que même s'il y a un blocus imposé par Israël, le blocus a été contourné par beaucoup, et ça s'est traduit par une contrebande très importante à partir de l'Égypte. Et cette contrebande permet la reconstruction de Gaza de commencer. Mais nous, on ne peut pas y prendre part. Donc paradoxalement, le blocus finalement affecte plus les Nations Unies que le gouvernement du Hamas.
Ça fait presque 5 ans qu'il y a le blocus israélien sur la bande de Gaza. Il y a eu quand même 2 changements. D'abord, après le raid sur la flottille internationale, il y a eu un allègement du blocus. Et puis ensuite, il y a très peu de temps, l'Égypte a décidé de réouvrir le point de passage de Rafah, qui est donc le seul point de passage que ne contrôle pas Israël pour entrer dans la bande de Gaza. Est-ce que ça a apporté un léger mieux quand même ?
Évidemment, l'allègement du blocus s'est traduit par des importations de biens de consommation en plus grande quantité. Ça, évidemment, pour la population au quotidien, pour ceux qui ont l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ces produits, c'est très bien. Il y a plus de produits, plus grande variété dans les magasins, donc ça, c'est évidemment une très bonne chose. Et le fait que l'Égypte ait rouvert partiellement le terminal de Rafah aux personnes, hein, au trafic des personnes, pas au trafic des biens, ça aussi, c'est évidemment une très, très bonne chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui est en mesure de briser le cercle vicieux, chômage, pauvreté, dépendance de l'aide. De manière significative.
Donc en fait, pour lutter contre ce taux de chômage qui monte en flèche et aussi pour les salaires hein, qui font un peu peau de chagrin, la levée du blocus, c'est finalement la seule solution.
Effectivement, c'est la seule solution, en sachant que le blocus, non seulement c'est un blocus qui est illégal aux yeux du droit international, et la communauté internationale est garant de ce droit, et donc le fait qu'après 5 ans, on ne soit pas en mesure de le lever, ça mine la crédibilité de la communauté internationale aux yeux des Gazaouis, bien entendu, des Palestiniens en général, mais aussi du monde arabe et musulman de manière plus large. Mais c'est aussi une politique qui est vraiment contre-productive, puisque au départ, c'était censé faire du mal au Hamas, et en fin de compte, on se rend compte que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont d'une part les pauvres, et d'autre part les Nations Unies. Donc il est urgent pour ces raisons. Lever le blocus, c'est effectivement la seule solution.
45% de chômage. Je voulais vous demander, évidemment, nous, on ne peut même pas imaginer ce genre de chiffres Ça se voit. Ça veut dire quoi concrètement dans les rues?
Ça veut dire que, d'une part, les gens n'ont pas grand-chose à faire. On voit beaucoup de gens qui sont oisifs. Et on voit aussi beaucoup de désespoir. C'est-à-dire que les gens veulent travailler, veulent gagner leur vie de manière honnête et veulent avoir la dignité du travail. Donc on les force finalement à travers cette politique à se soumettre à l'indignité de l'aide humanitaire, faire la queue dans les centres de distribution des Nations Unies qui donnent à manger à 1 million de personnes à Gaza. Et surtout pour les jeunes, à l'oisivité et le manque de perspective. C'est très dangereux dans la mesure où c'est l'avenir de toute une génération qui est hypothéquée. Et paradoxalement aussi, ça fait le lit de tous les extrémismes qui malheureusement existent à Gaza, même s'ils sont une très petite minorité.
Vous l'avez dit, c'est surtout les jeunes. Est-ce que par rapport il y a une différence entre les hommes et les femmes?
Il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais il faut savoir qu'à Gaza, l'éducation est généralisée pour les hommes et pour les femmes, et que les femmes sont très présentes sur le marché de l'emploi. Mais en période de chômage, évidemment, et de grande détresse économique, c'est souvent les femmes qui en pâtissent les premières.
L'ONU, évidemment, vient en aide aux populations pour les aider à vivre, à survivre, à manger, en tout cas. Le blocus ne va pas être levé comme ça, au pied levé. Est-ce qu'on peut quand même trouver, penser à des solutions pour recréer à la fois du travail et puis surtout l'envie de travailler dans la bande de Gaza avec blocus?
La réponse est simple, c'est non. On peut faire beaucoup de choses, les Gazaouis sont très ingénieux. Comme je vous l'ai dit, il y a une grosse contrebande très importante qui alimente l'activité économique dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas suffisant pour faire repartir l'économie. Pour faire repartir l'économie, il faut lever le blocus, tout en prenant en compte évidemment les soucis légitimes de sécurité d'Israël. Mais par exemple, l'un des pans principaux de la politique de blocus, c'est que les matériaux de construction de base, donc le ciment, l'acier et l'agrégat, donc les graviers nécessaires pour faire du béton, ces choses-là ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza, sauf dans le cadre de projets mis en œuvre par la communauté internationale. Donc ce sont des petits projets, généralement. Les procédures sont extrêmement lentes et bureaucratiques. Et donc nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre la construction à grande échelle. Donc ça, déjà, c'est un pan qu'il faudrait faire tomber, parce que de toute façon, il y a énormément de matériaux de construction qui rentrent par l'Égypte. Donc il n'y a aucune raison au niveau sécurité d'empêcher l'entrée de ces matériaux, puisqu'ils se trouvent sur le marché local en abondance. Les prix même des matériaux de contrebande sont à peu près les mêmes maintenant que les prix des matériaux qui sont achetés légalement par les organisations comme les nôtres en Israël. Donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas faire sauter ce verrou. Ça permettrait de créer des dizaines de milliers d'emplois et aussi de enfin commencer véritablement la reconstruction de Gaza. Il faut savoir qu'en 2009, il y a eu une guerre et il y a plus de 4 milliards de dollars qui ont été promis par les bailleurs de fonds, par la communauté internationale pour reconstruire Gaza. Et aujourd'hui, à cause du blocus, seulement une infime partie de cet argent est arrivée sur place. Donc il y a vraiment l'urgence pour la reconstruction, ce qui pourrait aussi permettre de faire baisser le chômage de manière conséquente.